Shalom les koulam, Boker Tov les koulam. Et nous sommes lundi matin, et donc lundi matin, eh bien nous revenons de notre étude du lundi, à savoir notre étude sur la Tefila. Et donc, c'est parti, sans plus attendre. Nous sommes toujours donc dans les brachot de la Shmoneh Esrei, et nous ouvrons aujourd'hui eh bien la sixième beracha, la sixième bénédiction, la troisième des bakashot. Après avoir passé les trois premières brachot à expliquer qui est Dieu, du moins à qui je m'adresse, qu'est-ce qu'il peut me donner et pourquoi il veut me donner. Après avoir commencé à parler de Birkat Hadaat, Ronen Hadaat, et ensuite de la Teshuvah, eh bien nous arrivons à la sixième bracha, la bracha de la Selicha. Et donc, vous vous rappelez de ce qu'on avait dit la semaine dernière, que la bracha de la Teshuvah n'était pas la Teshuvah dû à une faute quelconque. C'était la teshuva, un espèce de retour profond et mystique avant tout, qui en fait me rattache et me ramène vers Akadosh Baruch Hu, non pas parce que j'aurais fauté, mais parce que j'ai été créé, donc éloigné du Créateur. Et donc je veux revenir. Cependant, une fois qu'on a dit cela, eh bien, il faut remonter, remettre un petit peu les pieds sur terre et se rappeler, eh bien, que l'homme, des fois, il faute. L'homme, des fois, il faute. Et donc, lorsque l'homme faute, il a besoin de faire une autre teshuva sur ses fautes. Et donc, arrive ici la bracha de la slicha. Ken selach lanu avinu v'chadomé. On va revenir sur les mots de la bracha. Mais d'abord, il faut qu'on comprenne que d'après le judaïsme, il y a plusieurs sortes de fautes. Je ne rentre pas maintenant dans les punitions. Ce n'est pas ça qui m'intéresse. Je veux comprendre quelle est, pour la même action, le même style d'action, comment est-ce que ça s'appelle? Puisque vous allez voir que dans la bracha, en fait, on va parler du moindre au pire. Mais il y a entre les deux différents niveaux. Alors, prenons un exemple. Il y a plusieurs appellations de fautes. Tu peux faire des fautes de manière différente. Il peut y avoir ce qu'on appelle une faute beshogeg. Il peut y avoir une faute bémézide et il peut y avoir une faute bémérède. Mais en vérité, il y a d'autres formes également de choses. Alors venez, on va essayer de voir les choses et les traduire de manière concrète, léate, léate. On va prendre l'exemple d'allumer la lumière Shabbat. D'accord? On va prendre l'exemple d'allumer la lumière Shabbat. C'est quelque chose que tout le monde connaît. Ça nous arrive peut-être à certains d'entre nous des fois. Donc, que ce soit volontaire ou pas, donc, venez, on va essayer de comprendre de quoi il s'agit. Mais c'est un exemple, hein, la lumière Shabbat. Ça peut être n'importe quoi d'autre. Je rentre dans ma maison, je rentre de la synagogue, et je vois en ouvrant la porte qui fait sombre, eh bien, je fais pouf! J'allume l'interrupteur. Comment est-ce que ça s'appelle? Eh bien, ça s'appelle shogeg. Shogeg, ça veut dire quoi? Ça veut dire. J'ai pas fait exprès, mais qu'est-ce que j'ai pas fait exprès? J'ai fait exprès d'allumer la lumière. Je peux pas dire que j'ai pas fait exprès d'allumer la lumière. Là, j'ai fait exprès volontairement d'allumer la lumière. Donc ça s'appelle shogeg. Shogeg, ça veut dire que soit j'ai pas fait exprès dans le sens, je me rappelais plus que c'était Shabbat, ou je me rappelais plus que c'était interdit Shabbat. Bon alors, pour la lumière Shabbat, on va rarement dire, ah, je me rappelais pas que c'était interdit. Mais ça arrive très souvent, par contre, que tu allumes la lumière et tu dis, hop, c'est Shabbat. C'est Shabbat. Oi, oi, oi. Ça arrive très souvent. Moi, je sais que je suis assez sceptique et quant à la véracité de la parole de mes enfants, parce que ça fait plusieurs Shabbatot, quand il fait très, très chaud, que je ne comprends pas comment c'est possible, mais au milieu du Shabbat, je trouve le ventilateur du toit allumé. Du plafond, du toit, du plafond de leur chambre, allumé. Il n'était pas allumé au début de Shabbat. Tout d'un coup, au moment de la plus grande chaleur, c'est allumé. Et alors, il te dit, mais non, pas du tout, c'est pas moi, j'étais pas là, j'avais piscine. Ah! Donc maintenant, j'imagine qu'il faisait tellement chaud qu'à un moment donné, ils ont fait tac et ils se sont dit après, hop, c'est Shabbat. Donc ça, c'est ce qu'on appelle Beshogeg. Shogeg, c'est soit j'ai oublié que c'était Shabbat, soit j'ai oublié que c'était interdit. Mais donc c'est pas la pire chose. c'est pas la pire chose possible, mais d'un autre côté, c'est oui, ta responsabilité. Tu aurais dû faire un peu plus attention. Et donc, ben, Shogeg, tu es Khayav à l'époque du Beth Amikdash de ce qu'on appelait Korban Khatat. OK ? Et on va revenir sur la notion de Chet, Khatat. Mais attention, il y a une autre façon d'allumer la lumière Shabbat. Par exemple, eh bien, j'allume la lumière Shabbat, il est 3h du matin, Baruch Hashem, j'ai vidé avec mes invités 2 bouteilles de vin plus 3 bouteilles de bière, et en plein milieu de la nuit, bah, j'ai envie d'aller aux toilettes, Bimkhila, Lirvotrem. Et donc, il est 3h du matin, j'ouvre à la moitié d'un œil, je sens que j'ai envie de faire bibi, je me lève vite fait. Là, à ce moment-là, si tu me demandes comment je m'appelle, je ne sais même plus. Et mécaniquement, je vais dans les toilettes, et mécaniquement, en ouvrant la bonne nuit, j'appuie sur l'interrupteur comme ça. C'est-à-dire, je ne sais même pas comment je m'appelle, je ne sais même pas où j'habite à ce moment-là. Je sais juste que mécaniquement, mon corps, il a été aux toilettes et il a allumé. Ça ne s'appelle pas Beshogeg. Ça s'appelle Mit-Asek. Et c'est-à-dire, je fais un truc que je fais tout le temps. Et ça, tu n'es même pas khayaf de rien du tout. Parce que c'est un réflexe, c'est un instinct, c'est même pas un truc que tu aurais pu faire plus attention. Tu n'es même pas réveillé. Bon, il y a une autre solution qui s'appelle, enfin, solution, un autre cas qui fait de toi quelqu'un qui est anus. Par exemple, on t'a poussé et tu as atterri sur l'interrupteur. Bon, bah, certes, tu as allumé la lumière Shabbat, mais ce n'est pas de ta faute. Tu es anus. Là aussi, il n'y a rien à dire, tu n'es pas tour, évidemment. Mais il y a un autre cas, et là, on va dans l'autre côté. Donc, on a dit Shogeg, et si vous voulez, du côté le plus facile, après Shogeg, il y a Mitasek, Anus. Et de l'autre côté, eh bien, le Shogeg, il peut aller encore plus loin, malheureusement, et dire, je sais que c'est Shabbat, je sais que c'est interdit, mais j'allume quand même. Lama. J'allume quand même parce que j'ai chaud. Et donc, je veux mettre mon mahavrer. Ou alors, j'allume quand même parce que je n'ai pas envie de manger dans le noir. Ou alors, les plombs, ils ont sauté, je n'ai pas envie de manger froid, j'allume. Zé, assour, évidemment. Et zé, méside. Ça, c'est méside. C'est-à-dire que j'ai fait ça en connaissance de cause, pas parce que je voulais me révolter contre Dieu, mais parce que bah, ça me saoule. Donc, Mézid, à l'époque du Beth Amikdash, il sera Chayav Karet. Maintenant, il y a une troisième dimension, une autre dimension, cinquième dimension en fait, qui s'appelle Mered. Mered, c'est quoi ? C'est, je sais que c'est interdit, je sais que c'est Shabbat, et je le fais parce que c'est interdit et que c'est Shabbat et que je veux me révolter contre Dieu. Ça, c'est ce qu'on appelle Mered, c'est le top de la transgression. Et ça, à l'époque du Beth Amikdash, s'il y a, pour que ce soit considéré comme Mered, il faut que 2 témoins t'aient dit, mais écoute, c'est interdit, c'est Shabbat. Et dit, ouais, je sais, mais c'est pour ça que je le fais. Et à ce moment-là, les 2 témoins lui disent, mais tu sais que si tu fais ça, on va devoir t'amener au Beth Din, et le Beth Din, il va dire que tu es passible de lapidation. Et à ce moment-là, le mec, il dit, ouais, je sais, c'est pour ça que je fais ça. À ce moment-là, si jamais ça devait arriver, eh bien, un monsieur comme ça, il est Chayav Mita. Le tribunal rabbinique va le condamner à mort. Je vous rassure, ça n'est jamais arrivé. Ça n'est jamais arrivé. Il y a 2 cas où le Sanhedrin a condamné à mort quelqu'un qui a transgressé Shabbat. Dans les 2 cas, c'était contraire à la halakha. Le premier cas, c'est Moshe Rabbeinu, qui a tué le Mekoshe Shetzim. Pourquoi c'était contraire à la halakha ? Parce que pour pouvoir le considérer comme étant quelqu'un qu'on va devoir mettre à mort, il faut lui avoir non seulement dit que c'était interdit, mais en plus, lui avoir dit qu'est-ce qu'il risque s'il le fait. Or là, nous dit la Torah que l'opéra Shmaya Aselo, que Moshe ne savait pas ce qu'il allait lui arriver. Donc, il n'a pas pu le mettre en garde. Genre, si jamais tu fais ça, il va t'arriver ça. Donc, ça, c'est le premier cas. Et le deuxième cas, c'est à l'époque des Hashmonaïm, donc après Hanouka, que le Beth Din de Hashmonaïm a condamné quelqu'un à mort qui chevauchait un cheval pendant Shabbat, qui est interdit midivrei chachamim, et donc il est évident qu'on ne condamne pas à mort quelqu'un pour un interdit rabbinique. Mais ils ont fait ça parce que c'est une époque où l'hellénisme se répandait un peu partout dans Israël, et il fallait faire un exemple. Ça n'a pas marché. Quoi qu'il en soit, donc vous avez ici le panel. Alors, Anous, on n'en parle pas dans notre bracha de Slicha, parce que tu n'as pas besoin de demander pardon quand tu es poussé sur l'interrupteur. Barour. Mitasek non plus ne rentre pas dans le jeu, parce qu'encore une fois, on ne pense pas que Mitasek, c'est de ta faute. Donc, tu n'as pas à demander pardon. C'est-à-dire, agave, entre parenthèses, ça rentre dans le cas de Anous. Ça n'a rien à voir avec Shabbat. Mais vous savez qu'il y a plein de gens, des jeunes, et particulièrement des jeunes dans la yeshivot, qui se préservent de relations avec les femmes, c'est très bien, jusqu'au mariage. Et donc, des fois, eh bien, ils ont des épanchements nocturnes, éjaculations nocturnes. Il y en a plein qui sont très, très perturbés de cela. Ouais, il faut faire tchouva, machin. Rabbi Nachman de Breslav, il avait l'habitude de dire que ceux qui ont ça, c'est comme un bébé qui fait pipi au lit. C'est choum davar. C'est la nuit, c'est choum davar. C'est pas toi qui as voulu ça, c'est pas ça, hein? Réaction physiologique, t'as pas à te sentir mal. Certes, tu vas au mikvé pour te purifier de cela, mais tu n'as pas à te sentir mal du tout de ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, donc dans notre bracha, eh bien nous parlons depuis Shogeg jusqu'à Mered. Voilà, maintenant que l'introduction est terminée, on peut rentrer dans la bracha. Et la bracha nous dit Selach lanu avinu kichatanu. Et donc, la première partie nous parle de Slicha, de papa et de Chatan. Parce que c'est de cela qu'on parle. Chet, c'est Shogeg. Chet, c'est Léarti. Genre, tu lances, tu veux tirer un penalty au foot et tu as raté le but. C'est oups. Voilà, on pourrait traduire Chet par oups. Oups, erreur. Je voulais faire bien, je n'ai pas fait bien. Donc, pour le chet, c'est kal. Et donc, à qui tu parles quand tu as fait une chet? À papa. La reine, c'est avinu ki chatanu. Et donc, ce qu'on demande pour une chet, c'est slicha. Slicha, ki shmo kanu, soleach. C'est-à-dire, j'ai fait une erreur, excuse-moi. Ça fadal, c'est pardonné. Tu as fait une erreur, tu as fait une erreur. Non, ça c'est pas volontaire, et ainsi de suite. Et donc, Zekal, Slicha, Zemeot Pashut. Agav le fia halacha, Chayavim Nisloar, quand quelqu'un il demande pardon. On est obligé de lui pardonner. Le mec, il demande pardon. Il a fait une erreur. Nous, donc, Kalvachomer, si moi, dans la halacha, je suis obligé de te pardonner, Kalvachomer, que Akadosh Baruch Hu, lui aussi, il est obligé de me pardonner, bien sûr. Donc, ça, c'est Slach Lanu Avinu. Et là, on passe direct au plus grave et on te dit Mechalanu Malkenu Kifashanu. Ah, c'est autre chose. C'est-à-dire que là, on a switché le côté Mézid, on est arrivé directement à Mered et Mered, c'est Pesha. Alors, il y a un élément intermédiaire qui s'appelle Avon. Avon, c'est Bémézid. Donc, c'est pour ça qu'à Yom HaKippourim, on dit Chatati, Aviti, Pashati. C'est-à-dire qu'on parle et des Chataot, Shogeg, et des Avonot, Mézid, et des Pshaim, qui sont Mered. Donc, on a switché de Chet à Pesha pour bien montrer qu'on couvre tout le spectre. Et donc, quand on arrive à Pesha, eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire? Là, on ne demande pas être seulement une Slicha, ça ne suffira pas. Il faut également une mechila. C'est mazé mechila. D'abord, à qui on parle? On ne parle plus ici cette fois à Avinu. Non, 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 non. Tu t'es rebellé contre lui. Tu as remis en cause son identité, son autorité. Et donc là, il ne s'agit plus d'être ton papa, mais il est ton maître, ton roi. Et donc, mechal lano malkenu ki fashanu. Et mazé Mechila. Mazé Mechila. Mechila Rabotai. On pourrait traduire cela par une cavité. Une cavité. Je m'explique. Lorsque Akadosh Baruch Hu va se dévoiler à Moshe, après la faute du veau d'or, et qui va leur expliquer comment il faudra demander pardon dès qu'on a fait des erreurs. Et qui va lui donner « Shlosh esrei midot shel rachamim ». Qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il vient nous dire le Midrash Yalkut Shimoni et le Midrash Tanchuma qu'à ce moment-là, il va faire une mechila. La Torah ne parle pas du mot mechila. La Torah dit Vesakoti kapi ad ovri. Vesamti lecha benikrat atzur. Vesakoti kapi al ovri. Ad ovri. C'est-à-dire que Dieu dit à Moshe, mets-toi dans la Nikra Tatsur, mais Nikra, c'est une cavité. Vous avez déjà été peut-être vous balader à Rosh HaNikra, dans le nord d'Israël, dans les cavernes creusées par l'eau. Et donc, il dit, tu vas te mettre dans la cavité qui va faire la forme d'une kaf, une cuillère. C'est la forme, pourquoi ce qu'on appelle la cuillère kaf, kafayad, parce que ça fait cette forme-là d'une cuillère. Et donc, Dieu dit à Moshe, tu vas te mettre dans la cuillère, Vesakoti kapi adovri. Et je te mettrai un truc au-dessus pour te protéger. Donc la Mechila, c'est quoi la Mechila ? C'est un endroit, boum, en dessous. C'est bizarre cette histoire. Nachon, c'est bizarre parce que lorsque Am Israël a fait Chet HaEgel, à ce moment-là, les Malachim ont fermé les portes et fermé les fenêtres. Et les tfilotes, elles ne pouvaient plus arriver chez Akadosh Baruch Hu. Jusqu'à ce que Dieu lui-même fasse une mechila, et c'est de cette histoire dont on parle, et il a dit à Moshe, vas-y, rentre là-bas. Je t'ai fait la porte de derrière. Parce que c'est de ça qu'on parle. Mechila, en hébreu moderne, aujourd'hui aussi, on dira, quand vous avez des galeries souterraines, on parle de mechilot. Mechilot afar. Donc, c'est quoi une mechila ? Mechila, c'est là où les voies normales de rapport avec Dieu sont bloquées. Eh bien, Dieu te donne une autre possibilité, un chemin que personne ne connaît. Une mechila. Mais cette mechila, elle impose l'humilité. Pourquoi est-ce qu'elle impose l'humilité ? Eh bien, parce qu'elle est souterraine, que tu es entouré de toutes parts, que tu ne penses pas que tu peux être le patron. Tu sens que tu as un endroit véritablement de sauvetage, mais tu comprends aussi que tu es dépendant. Tu es dépendant de quelqu'un qui est dans une mechila, eh bien, il ne peut pas subvenir à ses besoins tout seul. Donc, quand on te dit « mechal lanu ki fashanu », eh bien, je comprends tout à fait que j'ai besoin de cette mechila, parce que je ne peux plus seulement arriver au chassadim et certainement pas au din, comme j'aurais pu le demander dans une chette, ou bon, bah, c'est-à-dire, je voulais faire bien, j'ai mal fait. Là, tu as fait volontairement mauvais. Donc, tu as besoin d'une mechila. Et c'est pour ça que quand on demande pardon à quelqu'un, on lui dit slicha ou mechila. Timchol ligam. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que je ne sais pas à quel point j'ai pu te porter atteinte. Quand on commence la tefila, vous vous rappelez qu'on a expliqué ce que voulait dire la phrase « Adonai sefatai tiftach ufi agid teilatecha ». Eh bien, qu'est-ce que c'est « sefatai tiftach » nous dit Rashi « Tenli pitron pe ufi agid teilatecha » Rashi dit « Lomar teilatecha ». Mais comment Rachid traduit le début du verset ? Adonai. Puisque ten lipitron pe, c'est sefatai tiftach. Ouvre ma bouche, c'est ouvre mes lèvres, dans le verset. Mais qu'est-ce que c'est Adonai ? C'est le nom de Dieu, mais en mode le patron. Aleph dalet nun yud, mon seigneur. Rachid traduit machol li. Mazé machol li, c'est bidouksa. Je m'en remets complètement à ton autorité. Donc, fais-moi un endroit où je peux me poser pour commencer à revenir vers toi. Zé Mechila. Alors, vous allez me dire, ouais, mais il y a une quatrième étape qui s'appelle Kapara. D'accord. Kapara, ça n'a rien à voir. La kapara, tu dois la faire également pour un chet, également pour un avon, également pour un pécha. Kapara, c'est rétablir l'équilibre du monde qui a été chamboulé à cause de ton erreur. Je donne un exemple volontairement extrême, d'accord ? Il y a Réhouven et Shimon. Réhouven, Shimon, tous les deux de Tzadikim, tout va bien. Réhouven a tué Shimon. Donc Réhouven qui a tué Shimon, Réhouven est passé de Tzadik à Racha. Sauf que Shimon, il est passé de Tzadik à Tzadik, seulement il est passé de vivant à mort. Maintenant, Réhouven fait Tchouva. Il redevient Tzadik. Le problème, c'est que Shimon, il est toujours mort. Et donc, il y a un bug par rapport au postulat de départ. Donc, il faut régler le problème. Soit Réhouven est capable de ressusciter Shimon. À ce moment-là, bah, c'est bon, on a réglé le problème. Mais s'il n'est pas capable de ressusciter Shimon, eh bien, le Beit Din va tuer Réhouven. Et comme ça, l'équilibre sera rétabli. C'est un cas théorique, évidemment, que je parle, mais c'est pour expliquer ce que c'est que la capara. La capara, c'est réétablir un équilibre suite au balagan, au chamboulement amené par la faute. Donc, une capara, elle doit être également là pour une chet, shogeg, également pour une avon, mezid, et également pour un pécha, mered. Évidemment que la capara ne sera pas la même là, là, là ou là. Bien sûr. Donc, on nous dit, c'est l'arlano avinu qui chatan. Mechal lano malkenu qui fashanu. Chav lama. Nous disent les chassidim, certains sfaradim, qui el tov vesalach ata. Mais qui el tov vesalach ata. Qui ata atov. J'aimerais dire Atov. Atam Mosif Raïm. Tov, c'est ajouter de la vie. Ata Tov. Si moi, j'ai porté atteinte à la vie et que, eh bien, il n'y a pas de correction à cela, j'ai porté atteinte à ton projet qui était de rajouter de la vie. Donc, pourquoi est-ce que tu vas me laisser le temps de corriger ce que j'ai fait? Qui est le Tov Vesalach Ata. Et oui, car Kadosh Baruch Hu n'a pas envie de punir les mécréants. Il a envie qu'ils ne soient plus mécréants. C'est ce qu'on dit dans le Mizmor qu'on lit à Rosh Chodesh, Barchi Nafshi. Qu'est-ce qu'on dit là-bas à la fin? Yitamu Chattaim min haaretz urshaim od einam, Barchi Nafshi et Hashem, Alléluia. Machloket Rabbi Meir ve Bruria, sa femme. Rabbi Meir disait Yitamu chataim al tikre chataim, c'est-à-dire que les fautes disparaissent de ce monde et les rechaim n'existeront plus. Rabbi Meir dit Yitamu chataim ne lit pas chataim, elle a dit chotim, que les fauteurs disparaissent. Et Bruria lui dit mais pas du tout. Les fauteurs, on ne veut pas qu'ils disparaissent en tant que personnes. On veut que les fautes qu'ils font disparaissent. Donc, il faut bien appuyer sur le mot chataim, pas chotim, mais pas chataim. Que le mec arrête de faire des fautes. Et à ce moment-là, ou shaim oidenaim, puisqu'ils ne seront plus rechaim, ils ne font plus de fautes. Il n'y a plus de fautes. Donc, de racha, il redevient tzadik. C'est-à-dire que le but du jeu, c'est de nous laisser le temps d'arrêter d'être problématique. Donc, c'est ce qu'on dit à Dieu. Ribono shel olam, ki el tov vesalach ata. Baruch ata Hashem, chanun, parce qu'au final, c'est quand même une base de chesed, plus que de mérite. On a dit, donne-moi le temps, rachamim, mais avant ça, il faut que Dieu, bichlal, il soit malé chesed, pour entendre, alors que j'ai fait une faute, entendre que je demande pardon. Donc, ki el melech rachum, Ça, c'est pas clair. Mazé le arbot l'isloach. Moi, quand je fais une erreur, je demande pardon. Mais je ne demande pardon que pour ce que je sais avoir amené comme erreur. Il y a peut-être plein de choses que j'ai mis en place à cause de mon erreur et je ne sais même pas jusqu'où ça va. Les ramifications peuvent être terribles. Ben oui, j'ai dit à mon pote, ce matin, je l'ai vu, mon pote, je lui ai dit « Encore avec ta tête d'enterrement, t'es lourd, hein, franchement, t'es insupportable, hein, t'as toujours une tête toute moche, vas-y, tu m'as saoulé là, tu ressembles à rien ce matin. » Bon, c'est pas cool, c'est pas bien d'avoir dit ça. « Zé l'albin pnechavero barabim », on pourrait dire que c'est également transgresser, je sais pas moi… Ouais, c'est transgresser vers Aftalah Kamor. Enfin, ça peut être plein de choses pas bien. Maintenant, moi, je sais que, bon, c'est pas bien ce que j'ai fait. C'est pas bien. Le lendemain, je me dis, allez, je vais lui demander pardon. Ça fait une semaine, en fait, que je ne l'ai pas vu au boulot, suite à ce qui s'est passé. Et là, une semaine plus tard, il est là, il est au boulot. Je me suis dit, ça y est, je vais lui demander pardon. Et je pense que je n'ai juste provoqué qu'un grand tsar dans son cœur. Un grand, grand tristesse. Mais ce que je ne sais pas, c'est que parce que je lui ai dit « Oh là là, tu m'as saoulé, tu ressembles à rien aujourd'hui !» Il a été extrêmement énervé. Le problème, c'est que comme il était très énervé et qu'il avait une réunion très importante avec le patron de l'entreprise, eh bien le patron de l'entreprise, il lui a fait des remarques un petit peu dures sur son travail. Et lui, comme il était déjà énervé, il a dit « Hey, vous m'avez saoulé, vous !» Le patron a dit « Ah bon, je t'ai saoulé !» Eh bien, t'es viré. Et là, il l'a viré. Est-ce que je l'ai vu aujourd'hui? Là, en fait, il était juste venu reprendre ses affaires. Il est viré, le mec. Maintenant, il est rentré à la maison. Tu te rends compte? Ultra énervé, ultra à la masse, viré. Tête d'enterrement, évidemment. Sa femme qui lui dit « Encore avec ta tête d'enterrement? Tu ne veux pas revenir un jour et être souriant? Hey, tu nous as saoulés !» Bon, même si ce n'est pas très sympa de sa part, en même temps, ça fait un mois qu'il vire tout le temps avec une tête d'enterrement. Sauf que lui, il a sa tête d'enterrement, en plus, il est vénère et en plus, il a tout perdu. Et donc là, c'est parti. C'est parti. C'est pas, il n'a pas fait exprès. Et la baffe, elle est partie. Et il a baffé sa femme. Et là, parce que c'est interdit. C'est l'obécédère. Béchoum Tsoura. Mais elle a dit non, mais c'est pas possible un truc comme ça. Elle a appelé la police. Et la police sont venus. Et ils l'ont mis en garde à vue. Et puis après, il y a eu un jugement. Et puis déjà, dans ce couple, ça battait de l'aile un petit peu. Et finalement, eh bien, ils ont divorcé. Et finalement, eh bien, comme il y a eu un point de violence au départ... Eh bien, elle a réussi à avoir la garde unique des enfants et elle a également demandé un tzav harchaka me'habayit, un ordre d'éloignement de la maison. Donc, le mec, il ne sait plus quoi faire. Parce que maintenant, non seulement il doit payer des pensions alimentaires terribles, en plus, il doit trouver un nouvel appart et en plus, il n'a plus de boulot. Ah ben oui. Ah ben, qu'est-ce que tu crois? Donc, maintenant, il a besoin d'argent vite. Ben, il tombe dans la drogue et il commence à dealer de la drogue. Bon, le problème, c'est qu'il est bon. Et donc, il commence à monter. Hein, il devient de plus en plus important, machin, et il monte un cartel de drogue. Et ça marche, et ça marche terriblement malheureusement dans le pays, si bien que là, une recrudescence de la violence incroyable, et le pays n'arrive plus à gérer, il y a des vagues de violence incroyables, de criminalité, de incroyable, le pays est sur le bord de la faillite. C'est à ce moment-là que nos chers voisins bien-aimés décident que c'est le moment d'attaquer. Là, il y a une coalition des pays arabes qui attaque Israël, et à ce moment-là, Bibi ne sait plus comment gérer, il appelle Donald. Il lui dit, écoute, viens m'aider. Et Donald, il est super énervé. Tu comprends, en ce moment, il n'y avait plus de gel pour les cheveux. Très, très énervé, il a dit, eh bien, si c'est comme ça, j'appuie sur le bouton rouge. Et il appuie sur le bouton rouge. Le moment, directement, au même moment, Poutine, il a été mis au courant. Il dit, ah bon, Donald, il appuie sur le bouton rouge. Eh bien, moi aussi, je vais lui montrer que, ah bon, bouton rouge. Et à ce moment-là, Xi Jinping, il dit, oh les gars, vous n'allez pas jouer tout seul. Et lui aussi, il appuie sur le bouton rouge. Et c'est parti, l'hiver nucléaire, 6 milliards de morts, destruction du monde. Tout ça parce que j'ai dit à mon pote, « Oh là là, tu ressembles à rien aujourd'hui, tu m'as saoulé, avec, etc. avec ta tête d'enterrement. » Maintenant, moi, je ne savais pas que ça allait amener à tout ça, à tout ça, à tout ça. Et donc, je demande pardon sur ce que je sais que j'ai porté atteinte. mais je suis conscient qu'il y a certainement des domaines, des dimensions plus importantes que ce que moi je sais. Moi, je demande pardon pour la partie immergée de l'iceberg. Émergée, c'est vrai. Mais il y a une partie immergée, je le sais. Et donc, c'est pour ça que je dis Baruch Ata Hashem, Chanun Hamarbe, même ce que moi je ne suis pas capable de voir. Chanun Hamarbe l'histoire. Et à ce moment-là, je suis redevenu tzaddik. Et donc, on peut continuer dans les demandes qu'on a à faire à Kadosh Baruch Hu. Mais ça, on verra la semaine prochaine. À bientôt!